Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Premier février, normal.
Bonne année, mais oui.
Normal.
Bah oui, écoute, c'est important. La santé.
C'est la santé. Tu sais, c'est vraiment le jour, le jour où c'est old school de le dire. Hein. C'est vraiment le 1er février. C'est genre, j'ai raté.
Rien à foutre.
Rien à foutre. On n'en est pas là. On a...
Le cœur y est, c'est ça le principal.
Faut se réarmer la bonté.
Réarmer la gentillesse. Jouer à Like a Dragon, hein, il faut réarmer la gentillesse, exactement. On est dans la bande-annonce, et voilà, et ça c'est cool. La bande-annonce de la semaine dernière, on en reparle de la bande-annonce de la semaine dernière, cette espèce de carnage absolu qui a eu lieu, mais c'est, il y a des gens, ils sont devenus agressifs sur le Discord, hein. Sur le Discord de Silence on Joue, ce havre de paix et tout ça. On balance, merci Lambinus, je veux balancer personne, mais on balance la question, quel est le jeu le plus surcoté ? C'en est venu aux mains, presque. Cette espèce de perte du second degré quand on aborde certains sujets. C'est... Alors les gens, ils avaient leur second degré et tout ça, et puis il y a quelqu'un qui balance un titre de jeu, et là, mais pourquoi ? Pourquoi tu penses que Baldur's Gate 3, c'est surcoté ? Là, tu vois, les gens, ils sont devenus... Voilà,
déjà je vois Marius qui bouillonne intérieurement.
Non, je suis en train de regarder la liste, je suis d'accord avec tout le monde. Tous les jeux sont surcotés.
Tous les jeux sont surcotés, voilà. Donc encore bravo pour la bande-annonce de la semaine dernière. Encore merci Lambinus. Cette semaine, si je ne me trompe pas, mais je vais aller vérifier. Oui, voilà. C'est une question proposée par Aero. Quel est le dernier jeu que vous considérez comme étant une révolution ? Vaste sujet. Qu'est-ce qu'une révolution ? Qu'est-ce qui est révolutionnaire dans le jeu vidéo ? On va commencer avec toi, Julie.
Oh bah super. Moi qui ai séché ce matin, qui était là, je peux pas balancer Elden Ring, je peux pas balancer Breath of the Wild, enfin trop évident.
Ah non, bah, on peut balancer de l'évidence.
Ouais, mais non, justement, je me suis dit, je vais essayer de réfléchir. J'ai pensé à Death Stranding aussi à un moment, parce que pour moi, il avait quelque chose... Alors, révolutionnaire, c'est peut-être pas le terme. Non, mais en tout cas, le jeu que j'ai choisi, parce que je pensais à Death Stranding, au fait que, pour la première fois dans un triple A, je trouvais une espèce d'ode à la lenteur. Ouais. Mais en fait, ça m'a amené à un autre jeu qui moi, en tout cas, a été révolutionnaire dans ma vie de joueuse, c'est The Longing. The Longing, dont on avait allègrement parlé, parce que... C'est un jeu qui est profondément anti-jeu. C'est un jeu qui...
Jeu de confinement.
Et bah justement, c'est ça aussi, je pense, qui a vachement joué.
Ce serait pas
et
le
ça,
jeu
c'est...
le plus surcoté du monde.
Non, je pense pas. Bah, alors moi, je l'adore en toute sincérité. Alors que j'ai du mal avec les jeux Tamagotchi habituellement, mais là, le truc, c'est que ça a tellement... Et c'est purement fortuit, parce que ça faisait 6 ans que Anselm Pita bossait sur le jeu, mais... c'était tellement un truc arrivé à point nommé qui a su saisir l'essence de ce qu'était l'année 2020, les périodes de confinement. Moi, c'est le jeu qui a marqué.
Par accident, pour le coup, parce que là.
Ah oui, involontairement, oui, il est sorti.
Complètement
avant,
involontairement. Ouais. Mais c'est un jeu que j'ai fait à cette période et qui a complètement changé mon rapport au habituel que j'avais aux jeux vidéo, dans le sens où au début, vraiment, je prenais le temps. Donc, pour rappel, c'est un jeu où on incarne une petite ombre qui doit attendre 400 jours qu'un roi se réveille de sa sieste. On peut très bien lancer le jeu, revenir 400 jours plus tard et gagner un succès et paf, le jeu est terminé. C'est beaucoup plus intéressant quand on prend le temps d'explorer et qu'on se rend compte qu'on peut speedrunner le jeu en lisant Dostoïevski, par exemple.
Ouais.
Mais c'est un jeu qui, justement, en fait, est comme un compagnon. Où on va se dire, ok, je vais l'emmener quelque part et pendant ce temps-là, je vais faire autre chose. Et c'est un jeu où on apprend à s'émouvoir de petit rien. On tombe sur un morceau de charbon pour la première fois et on se dit, c'est merveilleux, c'est le plus beau truc que j'ai vu de ma vie. C'est, en tout cas, ouais, j'ai pas, à part Cookie Clicker, je suis pas très portée sur les idle games, mais celui-ci avait une saveur vraiment, vraiment particulière, quoi. Et j'y pense souvent.
Attends, je peux revenir sur à part Cookie Clicker, je ne suis pas portée sur les idle games.
Ouais, pourquoi?
Genre, t'as le. Ah, moi, à part le crack, je suis pas portée. portée sur la drogue, quoi.
Ouais, ouais, c'est vrai que c'est ça. J'avoue. J'essaie de m'en défendre, mais ouais, ouais, ouais. Mais The Longing, c'est pas pareil, quoi. T'es pas en train de cliquer frénétiquement. C'est vraiment un truc qui t'accompagne dans le temps. Mmh. Où
ouais,
tu te
bien
dis,
sûr.
Dans deux semaines, il y a de la mousse qui va
est-ce
pousser.
Que, est-ce, que tu
retour...
est-ce que tu as la relancé 400 jours après ton premier lancement ou pas?
J'ai fait, ouais, j'ai fait plusieurs runs. J'en ai fait un où, du coup, je me suis rendu compte bon, que je l'avais fini beaucoup plus tôt que je le pensais. Ensuite, j'ai fait la version ouais, où je le laisse vivre sa vie. Ouais, j'ai fait trois runs.
Ouais. Moi, j'ai relancé parce que moi, j'avais fait le début. Alors, j'avais accéléré un peu le temps et tout ça. Mais non, je l'ai même relancé un an plus tard pour voir. Et puis là, j'ai eu la cinématique de fin et tout ça. C'était trop bien. J'étais trop content. Enfin,
mais
alors
oui,
que j'avais laissé un jeu à l'abandon pendant un an. C'était marrant.
Oui.
Patrick.
Non, c'est une bonne question. Hein. Je pense que les révolutions... Oui, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. C'est-à-dire qu'un jeu qui révolutionne ton rapport à une typologie de jeu, c'est pas forcément le truc dont tu vas prendre conscience immédiatement. Et moi, c'est venu d'un jeu que j'ai pas vu venir. Enfin, si, je l'ai vu venir, je le surveillais avec mon sniper, évidemment. C'était Doom 2016. On s'en moquait un peu, oui, donc id Software, qu'est-ce qui c'est plus le id Software de l'époque, ça va être un jeu d'exploitation, on savait qu'il y avait eu des prototypes avant qui donnaient rien, qui ont été annulés. Et puis est arrivé Doom 2016, qui est un jeu, je trouve, assez extraordinaire, et qui, à moi, m'a changé. Je me reconnais plus depuis que Doom 2016 est sorti. Je ne joue plus pareil au FPS, c'est-à-dire que ce jeu, on rappelle, hein, la mécanique, donc c'est de reprendre l'idée de Doom, un jeu d'action vue subjective, mais avec le twist de totalement galvaniser le rythme de jeu en récompensant le joueur agressif avec les glory kills et tous les systèmes de... comme ça, qui vont redonner de l'énergie lorsqu'on va tuer des ennemis. Ouais. C'est un jeu qui dynamise complètement l'agressivité du joueur. Évidemment, on a salué tout ça à l'époque, lorsque c'est sorti, parce que c'était très malin d'avoir ce twist pour justement apporter de la fraîcheur à une licence quand même mythique de l'histoire du jeu d'action en vue subjective. Et en fait, ce jeu, il a eu un écho sur moi, et c'est pour ça que je pense qu'il a révolutionné, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il m'a changé Doom 2016. Il m'a rendu plus méchant en FPS, hein, je parle, hein, pas dans la vraie vie, mais c'est un jeu qui a galvanisé mon rapport à l'action en vue subjective. Alors, je dis pas que je faisais des bisous aux méchants dans les Doom d'origine, c'est-à-dire qu'on avait déjà ce rapport aux antagonistes, mais je pense que avec
j'ai
Doom
l'image
2016,
en tête, ça fait bizarre.
Ouais, moi aussi, c'est... les glory kiss.
Je pense que Doom 2016, il a cassé quelque chose. Il a complètement transformé le rapport aux ennemis et surtout la dynamique de jeu. Et c'est pour ça que je pense qu'il a, d'une certaine manière, révolutionné l'idée même du fast FPS en fait, en rétribuant ton agressivité.
Ça va pas me sortir de la tête, hein, ton glory kiss, c'est mort.
Non mais maintenant, j'imagine Patrick faire des glory kiss.
Le dating sim Doom, quoi, c'est t'imagines ça.
Il faut un mode.
Bah, à côté, non mais c'est vrai, quand tu revois un Doom de l'époque, c'était gentil, enfin ton rapport aux méchants, tu t'étais beaucoup moins agressif quand tu joues un Doom ou un Doom 2 ou même un Doom 3, limite tu te planques derrière des coursives et compagnie. Dans Doom 2016, tu montes sur l'ennemi, tu tapes dessus.
Marius.
Moi, je vais faire révolution et contre-révolution. La révolution, c'est Disco Elysium, qui est ce truc qui est arrivé, qui t'a dit que le RPG, bah, on n'était pas obligé de combattre, on n'était pas obligé de faire des vraies fiches de personnages, et qu'en fait, tout allait se passer à l'intérieur de toi, qu'on allait te parler de révolution, de sujets d'adultes, d'une espèce de tristesse intérieure qu'il fallait combattre, et c'était merveilleux. Et puis, on se disait que le jeu de rôle allait être complètement différent après ça, que le monde allait être différent, et puis, puis Baldur's Gate est arrivé en disant « Eh, regarde, il y a des elfes, il y a des orques, et puis tu peux combattre, là, tu peux le geler, et machin. » Et tu dis « Mais oui, pourquoi s'emmerder à parler de tristesse et machin ? Donnez-moi des... » Voilà, donc j'ai succombé aux forces contre-révolutionnaires de Baldur's Gate, et les deux sont merveilleuses.
Pour ma part, moi, je vais vraiment le dernier jeu où j'ai eu ce sentiment-là en y jouant, et c'est l'impression est restée, c'est Her Story. Her Story, ouais. Je me suis dit, c'est quoi ce truc comment il a fait. Je me suis posé plein de questions. Comment il a fait? Comment il a fait pour scénariser? Parce que si on met le bon mot-clé à la première requête, on peut avoir le dénouement de l'histoire dès la première vidéo, dès la première requête qu'on veut, qu'on fait si on veut. Sauf que, en fait, en générant comme ça un mapping de ta propre réflexion, de ta propre découverte, alors avec une liberté folle qui est de mettre des mots dans un moteur de recherche, il a réussi à créer un scénario fixe, c'est-à-dire le scénario qu'on doit découvrir, et à te créer ton scénario à toi, ton scénario de joueuse, de joueur, qui va progresser dans la découverte de cette histoire. Et ce système de puzzle narratif qu'on a retrouvé après dans Normal Lost Phone, dans d'autres trucs.
Telling
et dans
Lies
les autres...
aussi, hein. Telling Lies.
Et dans les autres productions de Sam Barlow, et qu'il a fait évoluer dans Immortality, parce que le cœur du système reste le même, mais le gameplay et la proposition est totalement différente. Voilà, le moment un peu révolution dans le jeu vidéo, c'était vraiment quand j'ai joué à Her Story, c'était celui-là. Et vous, chères auditrices, chers auditeurs, au-delà de ce Glory Kiss, il faut absolument imaginer un jeu qui va avec ce concept.
Non, on veut pas imaginer.
Mais
on veut pas
imaginer. Mais si, évidemment, évidemment. Un Glory Kiss dans Like a Dragon Infinite Wells, tu vois, ça va très très bien. Quel est pour vous le dernier jeu que vous considérez comme une révolution? Vous pouvez répondre sur le serveur Discord de Science On Joue ou sur les réseaux sociaux. Et nous, on vous dit à demain pour l'épisode de la semaine de Science On Joue. Ciao.
Ciao.
Salut.
Bonne année.